Pourquoi un pays extrêmement pauvre tolère-t-il l'opulence du pouvoir? Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cet épisode consacré à une question fascinante de l'économie politique, une question qui intrigue souvent les observateurs de la République démocratique du Congo. Comment expliquer qu'un pays qui concentre l'une des plus grandes proportions de pauvreté extrême au monde ne semble pas toujours réagir fortement lorsque certains dirigeants affichent publiquement un mode de vie extrêmement opulent? Comment expliquer qu'au cœur d'une pauvreté massive, l'opulence du pouvoir puisse parfois sembler politiquement tolérable? Cette question est au centre d'une réflexion développée par l'économiste politique Joe Sekimonyo. Depuis plusieurs années, il présente certaines de ses théories dans des conférences internationales, notamment dans le monde académique, où ses travaux portent sur la structure des économies, les crises et les relations entre l'État et la société. Mais une critique lui est souvent adressée. Pourquoi ces concepts sont-ils rarement expliqués directement dans le débat congolais? Sa réponse est simple, les idées circulent difficilement lorsqu'elles ne sont pas traduites dans le langage et les réalités de ceux à qui elles s'adressent. C'est pourquoi, dans cette analyse, il décide de reprendre certaines de ses théories et de les expliquer à travers la réalité congolaise. Trois concepts vont structurer cette réflexion. Le premier est le social contract ratio ou ratio du contrat social. Le deuxième est le paradoxe de la réciprocité fiscale. Et le troisième est la théorie de l'indifférence. Ensemble, ces trois idées permettent d'explorer une question troublante. Pourquoi une société confrontée à une humiliation économique quotidienne peut-elle parfois tolérer l'opulence du pouvoir? Commençons par le premier concept. Le social contract ratio, développé par Joe Sekimonyo. Dans toute société, le budget de l'État raconte une histoire. Il révèle silencieusement les priorités politiques d'un pays et montre ce qui compte réellement dans l'ordre des décisions publiques. Le social contract ratio mesure l'équilibre entre deux types de dépenses publiques. D'un côté, celles consacrées directement aux citoyens, comme la santé, l'éducation, le logement, la protection sociale. De l'autre, les moyens attribués au fonctionnement des institutions politiques et administratives. Autrement dit, il s'agit de savoir combien l'État investit dans les capacités productives de sa population et combien il investit dans le maintien de ses structures de pouvoir. Dans les sociétés où le contrat social est solide, une grande part du budget est orientée vers les services qui renforcent le capital humain. Mais lorsque l'on applique cet outil d'analyse à certains pays, le tableau peut être différent. Dans le cas de la République démocratique du Congo, le social contract ratio apparaît particulièrement faible. Cela signifie qu'une proportion relativement limitée des ressources publiques est investie dans les fondations même de la prospérité nationale, alors que certaines institutions politiques peuvent absorber une part très importante du budget national. Ce contraste pose une question fondamentale. Pourquoi une telle situation ne déclenche-t-elle pas une réaction politique plus forte? Pour répondre, il faut également considérer la manière dont l'État se finance. La deuxième idée développée par l'économiste Joe Sekimonyo est ce qu'il appelle le paradoxe de la réciprocité fiscale. Dans le fonctionnement normal d'un État moderne, la fiscalité repose sur un principe simple. Les citoyens acceptent de céder une partie de leurs ressources à l'État sous forme d'impôts. En retour, l'État fournit des biens publics, des écoles, des hôpitaux, des routes, la sécurité, des systèmes de protection sociale. Cette relation crée ce que l'on peut appeler une réciprocité fiscale. L'État prélève, mais il redistribue. Et c'est précisément cette relation qui nourrit la légitimité politique du pouvoir public. Mais cette dynamique dépend d'un élément souvent sous-estimé, la manière dont l'État se finance. Toutes les économies politiques ne repose pas sur le même régime de financement public. On peut généralement distinguer trois grandes configurations. La première est l'État fiscal. Dans ce système, la majorité des ressources publiques provient directement des impôts payés par les citoyens et les entreprises. L'État fiscal est la vigilance citoyenne. Lorsque ce lien fiscal est fort, les citoyens savent qu'ils financent l'État. Et lorsqu'ils financent l'État, ils exigent des résultats, des services publics efficaces, de la transparence, une certaine responsabilité politique. Le lien fiscal crée donc une forme de vigilance permanente. La deuxième configuration est l'État financé par la dette. Dans ce modèle, l'État finance une partie importante de ses dépenses en empruntant sur les marchés financiers. C'est le cas de nombreuses économies avancées. Prenons l'exemple de la France. Les citoyens paient des impôts relativement élevés et savent que ces contributions financent l'école publique, les hôpitaux, les retraites et un ensemble étendu de protection sociale. Mais une partie de ces systèmes est également soutenue par l'endettement public. Autrement dit, une partie des protections sociales d'aujourd'hui est financée par les ressources de demain. Dans ce type de système, les citoyens développent souvent un sentiment de droit acquis. Les protections sociales ne sont pas perçues comme des faveurs accordées par l'État. Elles sont perçues comme des droits légitimes issus du contrat social. Et lorsque ces droits sont menacés, les réactions politiques peuvent être très puissantes. Grève, manifestation, mobilisation massive, mais il existe une troisième configuration. Et c'est ici que la dynamique peut changer profondément. Il s'agit de l'État rentier. Dans ces économies, une part importante des ressources publiques provient de rentes économiques. Le pétrole, les minerais, les ressources naturelles ou d'autres flux économiques qui ne passent pas directement par la taxation de la population. La République démocratique du Congo illustre largement cette configuration. Une portion importante des ressources publiques provient des rentes liées aux ressources naturelles, aux concessions minières et à différentes formes d'extraction économique. Le financement de l'État ne repose donc pas principalement sur la fiscalité directe des citoyens. Lorsque cette situation se produit, le lien fiscal entre l'État et la population devient beaucoup plus faible. Les citoyens ne perçoivent plus toujours les ressources publiques comme provenant de leurs propres contributions. L'argent de l'État apparaît alors comme une richesse abstraite. Une richesse qui semble venir, d'ailleurs. Dans ce contexte, même des déséquilibres visibles dans la gestion des ressources publiques peuvent susciter moins de réactions politiques qu'on pourrait l'imaginer. C'est ici qu'intervient sa troisième idée développée, la théorie de l'indifférence. Cette théorie suggère qu'une société peut tolérer pendant longtemps un déséquilibre entre l'extraction des ressources et la fourniture de biens publics. Non pas parce que les citoyens approuvent cette situation, mais parce que le lien entre leur contribution économique et les ressources de l'État est devenu trop distant. Lorsque ce lien disparaît, les citoyens peuvent progressivement cesser d'attendre de l'État qu'il remplisse pleinement ses fonctions sociales. Le contrat social ne disparaît pas complètement, mais il s'affaiblit. Et lorsque ce phénomène s'installe, même l'opulence visible du pouvoir peut susciter moins de réactions politiques qu'on pourrait l'imaginer. Ce qui pourrait provoquer des crises politiques dans d'autres sociétés peut, dans ce contexte, rester politiquement tolérable pendant un certain temps. Mais cette indifférence n'est jamais éternelle. Toute société possède un seuil, un moment où l'équilibre entre extraction des ressources et justice sociale devient politiquement insoutenable. Dans ce contexte, les biens publics ne sont plus toujours perçus comme des droits issus d'un contrat social. Ils peuvent apparaître plutôt comme des avantages accordés par le pouvoir. C'est ici que le paradoxe de la réciprocité fiscale devient particulièrement visible. Dans les États fiscaux ou soutenus par la dette, la structure du financement public tend à produire une culture de droits acquis et d'exigences citoyennes. Mais dans les économies dominées par la rente, la dynamique peut être très différente. Lorsque le lien fiscal devient distant ou invisible, une forme d'indifférence politique peut émerger. Les citoyens cessent progressivement de percevoir les ressources publiques comme leur propre argent. Et lorsque cette perception s'installe, même des déséquilibres très visibles dans la gestion des ressources publiques peuvent susciter moins de réactions politiques qu'on pourrait l'imaginer. L'épisode de la taxe RAM sur les télécommunications à RDC en offre une illustration intéressante. Cette taxe avait suscité une contestation importante. Pourquoi ? Parce qu'elle touchait directement à une activité quotidienne et visible pour des millions de citoyens. Cet épisode révèle un point essentiel. Lorsque l'extraction fiscale devient trop visible, l'indifférence peut soudainement se transformer en contestation. Mais lorsque l'extraction est diffuse, fragmentée et dispersée, la pression fiscale peut rester politiquement tolérable plus longtemps. La question devient alors centrale. Jusqu'où un État peut-il pousser l'extraction avant de briser le seuil d'indifférence collective ? Ce que cette analyse nous invite à comprendre, chers auditeurs et auditrices, c'est que certaines énigmes politiques ne peuvent pas être expliquées uniquement par les comportements des dirigeants. Pour les comprendre, il faut regarder plus profondément. Il faut examiner les structures économiques et institutionnelles qui organisent la relation entre l'État et la société. Le social contract ratio nous aide à révéler une réalité souvent invisible. Il montre la place réelle qu'occupent les citoyens dans les priorités d'un pays. À travers le budget de l'État, il devient possible d'observer si les ressources publiques sont orientées vers le développement des capacités de la population ou vers la reproduction des structures de pouvoir. Le paradoxe de la réciprocité fiscale éclaire une autre dimension essentielle. Il montre comment la manière dont l'État se finance peut transformer profondément la relation entre l'impôt, les biens publics et les droits sociaux. Dans certains systèmes, cette relation produit une culture d'exigence citoyenne. Dans d'autres, elle peut progressivement s'affaiblir. La théorie de l'indifférence suggère qu'une société peut parfois apprendre à vivre avec un contrat social affaibli. Mais cette indifférence n'est jamais infinie. Toute société possède un seuil. Un moment où l'équilibre entre extraction des ressources et justice sociale devient politiquement insoutenable. La véritable question n'est donc pas seulement pourquoi certaines sociétés tolèrent ces déséquilibres. La véritable question est à quel moment elle décide de ne plus les tolérer. Merci chers auditeurs et auditrices d'avoir suivi cet épisode, et à très bientôt pour une nouvelle exploration des grandes questions de l'économie politique.